Bon, ce shiur est dédié à l'élection de l'âme de Beya Bat Mazala, Zichron Evracha, dont c'est aujourd'hui encore en France le Yortzeit. Alors, je traduis la question. Il est marqué que le Olam Haba, donc le monde à venir, est un monde entièrement de bien. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir des choses qui ne sont pas en adéquation avec le désir de Dieu. Le mal, c'est ce qui n'est pas en adéquation avec le désir de Dieu. J'ai expliqué déjà très très souvent. C'est quoi le mal? Ça me prendra 5 minutes d'expliquer ta question. Hein. Qu'est-ce que le mal? Le mal, à la base, il n'a pas d'existence. La seule chose qui existe vraiment, qui existe, vraiment, c'est quoi vraiment, de façon absolue, c'est Dieu. Comme l'indique son nom, le nom de Dieu, Yud et puis Hei et puis Vav et puis Hei, c'est une contraction de trois mots en hébreu, Haya, qui était, Hove, qui est, Yé, sera. Trois à la fois, c'est Yud Ke Vav Ke, le nom ineffable. L'être. Être. Être de façon absolue. Donc c'est éternel. Tout ce qui est compatible, tout ce qui est adéquat avec l'être suprême, avec Dieu, fait partie du vrai. Tout ce qui n'est pas adéquat à cela fait partie du faux. C'est-à-dire n'est pas. N'a aucune existence. On appelle ça en bon français du flop. D'accord. Je crois que c'est anglophone comme origine. Bon. Néanmoins, nous voyons que le monde ici est un monde de mal. Le royaume du mal, on peut dire. Alors, c'est depuis le péché originel. Lorsque Chava, Ève, et après Adam, ont accordé du crédit à la parole du serpent. Même auparavant, pourquoi est-ce qu'il y a un serpent? Donc, Dieu a voulu qu'il y ait quand même un peu de mal dans le monde. Il crée le serpent. Pour qu'on ait un libre arbitre. Parce que sans libre arbitre, tu peux accéder à rien, tu n'es pas. Tu es programmé. Pour que je puisse être, il faut que j'ai un libre arbitre. C'est moi qui choisis. Donc, libre arbitre, il faut me donner maintenant deux options. Si je vois de façon naturelle que la vérité, que Dieu, je ne peux pas choisir autre chose, donc il n'y a pas de choix. Je suis programmé, donc je ne suis pas. Dieu me donne le cadeau d'être, donc il me donne un libre arbitre, donc il me donne aussi l'option serpent. Vient le serpent, et il va tenter Ève. Comment il tente? On peut apprendre beaucoup de choses de ça. C'est ta question, ça va prendre 10 minutes pour arriver à expliquer ta question. Est-ce qu'on a ici le chiffre? Le serpent fait une argumentation. Et après, le texte va nous dire comment Ève, elle a été tentée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vatere Aïcha. La femme, elle a vu. Kitova etz le ma'achal. Que l'arbre est bon à manger. Traduction aussi du traducteur. La femme dit que l'arbre était bon pour nourriture, et désirable pour les yeux, et attrayant pour l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, l'en donna aussi à son homme avec elle, il mangea. Et depuis, on vit soit 6000 ans de malheur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a attiré comme ça? Première chose qu'il lui dit, l'arbre était bon pour nourriture. Tov, Tov, quelqu'un de bon. C'est quoi quelqu'un de bon? Tu es doux. Quel bon goût. C'est quoi quelqu'un de bon? Le mot Tov, dans l'étymologie absolue, originale, signifie quelqu'un de bon. Il est bon, il a des bonnes midotes, il se rapproche de la vérité, de Dieu. Mais dès ce moment-là, il y a tout d'un coup une autre explication au mot bon. Bon signifie à la fois quelqu'un de bien, donc il se rapproche de Dieu, c'est vraiment bien. Mais bon signifie aussi, c'est bon. Le poulet est bon. Le chocolat est bon. Alors quand elle dit maintenant que l'arbre est bon à manger, on parle d'un arbre qui est bon, il est bien, ou il est bon au goût? Au goût. C'est-à-dire qu'elle prend les qualificatifs divins de bonté, elle les met dans un morceau de fruit. C'est un mensonge. Il y a ici une bifurcation. Bon égale Dieu. Prends, si tu veux, la traduction du vrai mot. La traduction du mot bon, c'est bien. Bien. On ne dit pas le fruit, il est bien. Elle va et prend le mot bon, qui signifie bien, elle dit le fruit. Il est bien. Maintenant, est-ce qu'elle a dit le fruit était bien? Hein? C'est trompé, là, le type qui a écrit. T'as vu, pas marqué le fruit, il a marqué va être. L'arbre, le bois était bon. L'arbre était bon. C'est un mensonge. Donc le serrara d'abord, il te fait penser que en profitant de cette chose-là, tu vas accéder à Dieu. Le vrai bon, c'est Dieu. Tu dis, ça c'est bon. Tu seras un homme bon. C'est le bon. C'est pas le bon. Bon, c'est Dieu. Ça, c'est rien. Déjà, il te ment. Ensuite, il te fait croire qu'un morceau de bois, il est bon. C'est un menteur. C'est-à-dire quoi, c'est un menteur? Il te fait croire. C'est du flop. Le mal, c'est me faire croire des choses qui sont fausses. Ça, c'est divin. Le kiff, c'est vivre intensément. Tous les kiffs, c'est... Tu prends le chocolat. Hein? Alors, les papilles gustatives, elles se mettent à vibrer. C'est une vibration, c'est une intensité de vie. Au niveau de la langue, on te fait croire. Tu vas vivre intensément. Mais la vraie source de vie intense, ça peut être que Dieu. Le mal te vend de la pacotille, soi-disant c'est Dieu. Maintenant, comment il agit? Il y a encore deux argumentations ici. Vritavau la'enaim. Désirable pour les yeux. Messieurs, les pauvres Français. D'accord? Harcelés au niveau des yeux toute la journée. Là. Oh, ici, d'accord, on a importé ça. Mais c'est pas nouveau. C'est l'argument numéro un du mal, c'est les yeux. Désirable pour les yeux. Qu'est-ce qu'il dit là pour les yeux? Une guémara. Hein? Une prière avec intention vers Dieu. Faire un acte d'amour envers un donné tzedaka, c'est désirable pour les yeux. Les yeux, c'est ce qu'il y a de plus superficiel au monde. Le moins profond possible, c'est les yeux. Parce que les yeux s'arrêtent à la première couche. Tu peux voir plus profond que la peau là, tu ne peux pas. Tu peux voir ce qui se passe sous la table? Non, tu peux entendre. L'ouïe, c'est beaucoup plus profond. L'ouïe, c'est-à-dire on entend un message. Ça touche moins le corps, ça touche plus l'âme. La musique, c'est beaucoup plus spirituel. L'ouïe, c'est spirituel. Les yeux, c'est ce qu'il y a de plus superficiel, de plus matériel possible.
Les hommes sont plus matériels que les femmes, puisqu'on dit que les hommes aiment avec leurs yeux et les femmes avec leurs oreilles.
Attends, je vais voir d'où ce dicton il vient. D'accord, ça, je sais pas. Les deux sont complémentaires. Les hommes aiment regarder ce qui est désirable, et la femme aime être désirée, exactement. Troisième argumentation. Et attrayant pour l'intelligence. Attrayant pour l'intelligence. L'intelligence, ça ne doit pas être attrayant. L'intelligence, c'est vrai-faux. Attrayant, c'est y mêler maintenant de l'émotion. Le Sahara, il agit sur nous avec de l'émotion. Et pas une émotion bête, il te fait croire que tu vas être quelqu'un. Il faut être intelligent, il faut être quelqu'un de bien. Donc, le mal, c'est un menteur. Il me vend du flop, du vide, sous couvert de la vie, de l'absolu, du vrai, de l'attrayant, du désirable, du solide. Donc le mal, qu'est-ce que c'est? Le mal, à la base, il n'a aucune existence, mais une fois qu'on lui donne du crédit, on lui donne de la force. Un mensonge, il est puissant quand on y croit, quand on le croit vrai. Quand on a dévoilé qu'un mensonge était un mensonge, il n'a plus aucune puissance, c'est rien, il a perdu tout. Il n'a plus aucune valeur. Un mensonge. Tu sais que c'est un mensonge, tu n'accordes plus de valeur. Nous accordons de la valeur au mensonge parce que, quelque part, on croit qu'il est vrai. Et nous vivons tous cela parce que nous sommes nés dans un corps. Donc, pour nous, le concret, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent au niveau corporel. Mais c'est tout faux parce que notre, plus tard, quand on grandit, notre esprit peut nous dire non, ça c'est faux, ça c'est vrai. Donc, dans le monde de vérité, ça pour arriver à la question de Daniel, dans le monde de vérité, il n'y a pas de place au mal, il n'y a pas de place au mensonge, à ce qui n'est pas vraiment. Que ce qui est vraiment. Or, il est marqué que dans ce monde-là, chaque tzaddik, nirva mechupato shel chavero, il est brûlé par le mariage, la fête qu'on fait au tzaddik voisin. Quelque part, comme s'il y aurait de la jalousie. Or, la jalousie, c'est peut-être, en tout cas, c'est un des trois plus grands axes du mal. Hakina, Tahava, Vakavod, la jalousie. La Tahava, le désir. Kavod, les honneurs. C'est les trois grands axes du mal. Le serpent vient voir Ève. Pourquoi ? Il est jaloux. Parce qu'il voit que Ève et Adam sont en union totale. Il est jaloux de se marier avec Ève. Ève et Adam font des enfants. Cain et Ève. Que fait Cain ? Jaloux de Ève. Il le tue. Etc. La Torah nous raconte ça pour nous dire que ce sont les bases du mal. C'est quoi la jalousie ? Dieu m'a donné des outils. Des outils que j'ai pour me réaliser. Accéder à l'absolu. Ces outils, c'est mon corps, c'est mon background éducatif, mes biens, tout ce que j'ai, tout le monde qui m'entoure, c'est ce qu'il me faut à moi pour réussir mon job le mieux possible, imaginable possible. Plus profondément, la mystique juive va dire que tous mes biens sont faits des parties de mon âme. C'est marqué, celui qui vole une prouta, une pièce à son prochain, c'est comme s'il avait volé son âme. C'est marqué aussi, comment on appelle l'argent en hébreu, dans le texte de Torah ? Damim. Damim, c'est aussi du sang. Or, la Torah dit, Kadam ou Banefesh. Le sang, il est dans l'âme. Le sang, c'est le véhicule de l'âme. L'âme, quand quelqu'un, une grande partie de sang le quitte, alors l'âme aussi, elle part. L'endroit de friction, de jonction entre l'âme spirituelle et nous se fait au niveau du Nefesh. Il y a plusieurs Nefesh, Ruach Neshama. Au niveau du Nefesh, se fait au niveau du sang. Il y a 86 millilitres de sang, Revi'it, qui sont les parties les plus fines, on va dire, de notre sang, sur lesquelles repose le Nefesh, ce qui nous fait vivre. Pourquoi l'argent est appelé alors sang, c'est-à-dire véhicule du Nefesh? Parce que l'argent est un véhicule du Nefesh. L'argent, mon argent, contient des parties de mon âme. Et grâce à elles, je peux réaliser mon âme. Une étincelle, c'est quoi une étincelle d'âme ? C'est un potentiel. Une âme, c'est un potentiel. Je viens sur Terre pour réaliser le potentiel, en réalité divine. J'ai de la vie maintenant. Je peux utiliser la vie maintenant pour aller faire dos au ventre, à Acapulco tout l'hiver, d'accord ? Ben, j'ai pris un potentiel de vie énorme, de rapprochement de l'absolu, d'être, et je ne fais rien. Flop. Ou je peux prendre ce potentiel-là maintenant et réaliser en absolu. Mitzvah. L'argent, c'est un potentiel aussi. Je peux avec cela aller me payer le billet pour Acapulco, ou, au contraire, investir dans des choses intelligentes qui me rapprochent de mon vrai job. Si maintenant quelqu'un prend une partie de mes biens, il a pris une partie de mon âme. C'était avec ça que je devais me réaliser. J'aurais pu me réaliser maintenant. Dieu m'a donné ce potentiel pour me réaliser. Quelqu'un m'a pris une pièce, mon 100% de réalisation, je ne pourrais plus le faire. C'est vrai que le vol est tellement grave, et c'est marqué, on revient en Gilgoul, en réincarnation, pour rendre. Parce qu'il faut rendre la partie d'âme. Terrible vol. Pourquoi j'expliquais cela ? Ah, la jalousie. Donc, si maintenant, Dieu m'a donné tout ce qu'il me faut, moi, tout ce qui m'entoure, c'est ce qu'il me faut pour réussir. Donc je vois quelqu'un qui a plus d'argent que moi, qui est plus beau que moi, qui est plus intelligent que moi. La réaction animale, primaire, bébête, dans laquelle presque tout le monde tombe. Pourquoi lui et pas moi? Moi aussi, je veux. J'ai fait l'expérience ce Shabbat avec ma petite fille, qui vient toute émotionnée que sa sœur, qui est un peu plus grande qu'elle, a reçu un bonbon et elle pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères que vous deux, vous avez rien, ou que elle, oui, et toi, pas? Mais elle n'a pas hésité une seconde. Nous deux, rien. Parce que l'idée que l'autre a, et moi pas, c'est tellement insupportable. Alors que si on regarde de façon rationnelle maintenant, ça c'est le corps, ça c'est le mensonge, le rationnel. Rien peut arriver à quelqu'un d'autre sans que Dieu l'ait voulu pour son bien à lui, pour qu'il réalise son job. Et si toi tu l'as recevoir, tu recevras. Et si tu ne reçois pas, c'est parce que ton job passe par cela et pas par autrement. Donc lui il a sa voix, moi j'ai ma voix, on n'est pas du tout en concurrence, en interférence, rien. On n'a jamais vu quelqu'un qui est jaloux, je sais pas moi, des crapauds qui peuvent à la fois être terrestres et maritimes. Je ne suis pas en concurrence avec les crapauds. C'est une expérience fantastique à faire. C'est marqué dans la Gemara que Kol Balo Mano, tout celui qui a une profession, il a la haine de son concurrent qui a la même profession. C'est en concurrence. Et quelqu'un d'extérieur, il se marre quand il voit ça. Mais quand tu es toi pris dans ces concurrences, c'est très dur de s'en sortir. Tu as quelqu'un qui fait le même job que toi en face de chez toi. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il ne soit pas là? Pas qu'il prenne des clients. Parce que s'il est à l'autre bout de la vie, il prendra aussi des clients. Mais en face, tu as l'impression qu'il te prend quelque chose. Alors qu'il ne te prend rien. Rien ne peut arriver ou lui arriver si ce n'est que c'est pour arriver à votre réalisation personnelle. Et il ne te prend rien et tu ne lui prends rien. Si on a compris ça, on a tout compris au niveau de la kina. C'est un travail difficile parce que nous sommes tous. Dans la vie, on a un job, arriver à réparer cette tendance négative. Donc pour revenir à la question de Daniel, comment se fait-il que dans le monde de réalité divine, qui n'est que vérité, on nous dit que les tzadikim, ils sont brûlés, ça veut dire, ça leur fait mal de voir le tzadik à côté de lui, qu'on lui fait la fête plus qu'à lui. Jalousie. Est-ce qu'il y a la jalousie dans le monde de vérité? La jalousie, c'est un flop, c'est rien, c'est un mensonge, ça veut rien dire. Le Ramchal pose la question dans Mishnah Sharim. Il dit, c'est pas, on n'est pas jaloux, parce qu'on est tous amis, on est tous, chacun comprend qu'on est là pour le même but. Mais quand ma chair viendra, il n'y aura plus la jalousie. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu sera tellement présente que nous, on comprendra que, au contraire, on est associé pour aller dans le même but qui est dévoiler la présence de Dieu sur terre. Et on n'a pas à se faire la concurrence. On va dire à quel point les choses, elles sont dures. Je reviendrai à la réponse du Ramchal tout de suite, mais regarde à quel point les choses elles sont dures. Et quand on est dans ces expériences-là de jalousie, c'est très très dur. C'est très dur. Il faut se battre vraiment avec la raison. Le mensonge, il est énorme. Il y avait David HaMelech, son fils était Shlomo, le roi Shlomo. Shlomo avait un fils qui s'appelait Rechavam. Lorsque Rechavam est devenu roi, le peuple est venu lui demander « Allège les impôts. » Ravam va écouter les vieux conseillers de son père qui lui disent « Écoute le peuple, si aujourd'hui toi tu les sers, demain tu serviront, ils te font le tapis rouge. » Ravam va écouter aussi ses copains, les voyous avec qui il tournait dans la rue comme ça. Il dit, sois dur avec eux, au contraire, si aujourd'hui tu acceptes, ils vont te marcher dessus, il faut que tout le monde que c'est toi le roi. Il va voir le peuple, il leur dit « Mon père a pesé sur vous avec son petit doigt, moi je pèse sur vous avec ma hanche. Et mon père vous fait avec un bâton, moi je vous fais avec des bâtons à pic. Je serai encore pire que mon père. Le peuple d'Israël dit, ok, bon, on a compris. Ciao. Rentrez à vos tentes, Israël. Il y a eu un schisme. L'empire d'Israël, le royaume d'Israël, s'est partagé en deux. Avec Rechavam, il y a eu la tribu de Yehuda. Yehuda et Binyamin. C'était Yehuda, Malchut Yehuda, la royauté de Yehuda. Les 10 autres tribus ont une capitale Shrem, et qui était à leur tête? Yerovam. Yerovam, Ben Nabat. Ok, arrivent les fêtes. Il y a un temple, il est où? Dans Yehuda, Jérusalem. Yerovam se dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les Juifs vont aller au temple, à Yehuda, et ils vont reconnaître que le roi... on doit toujours être debout dans le temple. Le seul qui peut rester assis, c'est le roi. Le roi... c'est Rechavam. Il va être assis. Et ils vont voir que c'est lui le roi. Et moi, ils vont faire un putsch militaire. Ils vont me mettre dehors. Solution, Eureka. Ben, je fais un temple, moi, dans la région d'Israël. Il a fait deux temples, un à Bethel et un à Dan. Il a mis là-bas une idole. Deux idoles, une dans chacun des deux temples. Il a créé une nouvelle fête, ici maintenant, Cheshvan, le 15 Cheshvan. Et voilà, pour éviter des problèmes de ce genre. Par jalousie. De peur qu'on va reconnaître que c'est Rechavam, le vrai roi. Chazal nous dit que Dieu est venu vers Yerovam ben Nabat, lui a dit, fais tchouva, et moi, Dieu, et toi, Yerovam, et ben Ishaï, le fils de Ishaï, c'est donc le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. Est-ce qu'on peut imaginer un programme plus beau que ça? Dieu me dit, viens, fais tchouva, on se promène, et viens, c'est... des bêtises. Il vient et me dit, on se promène ensemble au paradis. Le roi David, par la main, l'autre par la main. Dieu, et voilà. Yerovam pose la question, qui est à la tête, moi ou David? Dieu lui a dit, moi, Dieu, toi et David. Donc tu es avant David. Baal Tshuva, tu es plus grand que tout le monde. Il a entendu Yerovam, il voulait entendre le Kavod. Répète encore, qui est à la tête? On dit, David est à la tête. Déjà, il est descendu d'un cran. David est à la tête? Insupportable. Dieu, David et moi, donc je suis moins que David. Et Yerovam ben Nabat d'Israël, on n'a pas de roi qui a fait autant de mal au peuple d'Israël. L'idolâtrie, il n'y avait pas un arbre qui n'était pas... une idole. Jalousie. Comment je vais être moins que David? C'est pas tordu ça? Eh bien messieurs, la plupart des êtres humains sont prêts à flamber tout ce qu'ils ont de bon dans leur vie. D'abord, quand ils voient que quelqu'un d'autre a plus, un proche, un concurrent, il a plus que lui, sa vie n'est plus une vie. Il est malade de jalousie. Ensuite, il se flambe la vie. Il fait du lachonara sur l'autre. Il flambe son lamaba, il flambe son lamazé. Il se bousille complètement. Il n'a pas compris que l'autre, tout ce qu'il a reçu, c'est pour lui. Et tu ne peux rien toucher. Et toi, tout ce que tu as reçu, c'est pour toi. Vous n'êtes pas en concurrence parce qu'on ne peut rien te prendre. Tu ne peux rien recevoir ce qui n'est pas à toi parce que ce n'est pas ton âme. Tout lui appartient, c'est son âme à lui. Et c'est son job. Et il n'est pas plus que toi. C'est son job, c'est tout. Et toi, tu es ton job. Et si maintenant tu te perfectionnes dans ton job, tu es parfait aux yeux de Dieu. Donc tu es complètement dans la divinité. Quelqu'un qui est parfait au niveau où il est. Chazal nous dit déjà dans le Talmud, c'est marqué, que tu fasses peu, que tu fasses beaucoup, que tu fasses les Shem Shamayim, que tu fasses de façon désintéressée par amour de Dieu. C'est ça qui compte. Quelqu'un qui a fait peu, mais a fait son maximum, eh ben il est autant que celui qui a fait beaucoup, qui a fait son maximum. Les deux sont au même niveau, tu n'as pas un qui est plus haut, parce que Dieu veut que tu réalises ton job, que tu réalises cette âme. Tu as réalisé à 100%, voilà, tu es parfait, parfait! Faut plus que ça. Alors répondit le Ramchal, alors c'est quoi la jalousie qu'il y a là-bas? C'est pas la jalousie que j'aurais voulu avoir ce qu'il a. C'est que je vais voir quelqu'un qui arrive à son 100%, et moi je fais que 90%, et je vais me taper la tête dans les murs. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas plus battu pour plus... Pas que je suis jaloux de lui. C'est qu'en voyant maintenant le 100% des autres, je me dis c'est dommage. Pardon? Tu poses la question, tu dis qu'il y a un mal éternel. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un mal? Une réalité. Quelqu'un qui a fait 90% de son potentiel. Alors, il a déjà 90% d'infini, c'est énorme. Donc, il a une proximité de Dieu fantastique. Mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir 10% en plus. On ne peut pas effacer ça. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas de l'enfer, simplement. C'est ce que j'ai pu faire. Et j'aurais pu faire plus. Bon, c'est ce que j'ai pu faire. Je ne pense pas qu'on le vit là-bas en mal. Imagine que nous sommes... Il faut imaginer comment nous sommes face à une présence de Dieu. Je vais trouver un exemple, parce que c'est tellement dur de trouver des exemples appropriés. On est une équipe de commando. Très amis, très unis, pour faire une mission. Et dans la mission, chacun grimpe, chacun est en train de monter, et un ami à moi, mon meilleur ami que j'aime, avec qui nous sommes vraiment unis, lui arrive à faire mieux. C'est lui qui a fait le dernier acte, mieux. Je ne suis pas jaloux, parce qu'on a réussi. Ça me fait pas mal, parce qu'on a réussi. Je me dis, peut-être s'il me donnait plus d'efforts, ça aurait pu être moi qui l'ai fait. Mais je n'ai pas ici de mal, je n'ai pas ici de jalousie, je n'ai pas ici, c'est dommage. Et je souffre de ce dommage. Parce que nous sommes unis dans le même but. Dans l'âme-abba, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de jalousie. Il y a l'amour de Dieu qui est là, très 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 puissant. Alors on est content ensemble. Maintenant, un est plus proche, je suis heureux pour lui, vraiment heureux pour lui. J'aurais pu moi aussi être plus. C'est comme les amis ensemble. On est en train de grimper maintenant dans l'émission de commando, en train de grimper maintenant de la montagne, le fort qu'il faut conquérir, je ne sais pas. Je donne le maximum de mes efforts. Lui s'est mieux entraîné, il arrive mieux à monter. Je suis jaloux, je suis content parce qu'on réussit mieux. Bah au Hachem, comme ça on va mieux réussir, mais... Sauf, c'est lui. En fin de compte, quand même, lui qui a réussi. Parce qu'il s'est mieux entraîné.
C'est comme par exemple dans les notes. Il y a quelqu'un qui a. Supposons qu'il y a eu deux élèves qui ont travaillé pour entendre un maximum. Il y en a un qui a eu 100 et l'autre il a eu 98.
Ouais.
Pourquoi j'ai pas eu ces deux points-là?
Bah, je le mets au maximum. Mais là, il y a une concurrence. Là, il y a une jalousie, une concurrence. Mais quand on est amoureux, on n'est pas amoureux du prof d'habitude. Ni des maths, d'accord, qu'on fait. Mais là, on parle maintenant d'une histoire d'amour. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des commandos, parce qu'on est très unis pour aller faire un acte de don de soi désintéressé pour le bien de la patrie, de je ne sais pas, pour sauver, d'accord. Il faut qu'il y ait ce sentiment de don de soi désintéressé, d'amour. Dans l'histoire d'amour, alors on est heureux que les autres aiment ce que j'aime aussi, et qu'ils réussissent là-dedans. C'est marqué, tu aimeras l'éternel ton Dieu, tout ton corps, ton âme, tout ton pouvoir. Le chiffre est écrit il y a 1800 ans. Il dit, comment on peut aimer Dieu? Le faire aimer par les autres. Quand quelqu'un aime véritablement Dieu, alors il voit beaucoup de gens qui aiment Dieu, ben il est heureux. Dans le monde d'amour de Dieu, quel olam haba, il n'y a pas une jalousie. J'aurais voulu être à sa place. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. On est très heureux, et je peux même l'encourager avec mes forces, je le pousse encore plus en avant vers Dieu. Simplement, il y a cette notion que j'aurais pu arriver à plus. Bon, j'ai fait ce que je pouvais faire, en espérant que je l'ai fait. Il y a possibilité de réparer. Il y a des fois des grandes âmes qui reviennent ici, en réincarnation, pour parfaire une mitzvah. Ou bien en hibour. Hibour, une fois j'ai expliqué cela, c'est pas qu'ils viennent en réincarner, mais ils accompagnent une âme qui fait la même mitzvah desquelles ils sont manquants, et ils sont bénéficiaires de la mitzvah qu'ils font en association. Moshe va faire une mitzvah, Yaakov qui est en âme vient maintenant, rentre dans Moshe, et les deux vont faire la mitzvah. Yaakov qui est une grande âme, aide Moshe à faire la mitzvah, et vu qu'il aide, il est bénéficiaire de la mitzvah. C'est un moyen de se parfaire encore.
C'est-à-dire que chacun a la possibilité de faire les 100%. Finalement, j'étais que 98%. J'aurais voulu faire les 100% et finalement,
j'essaie d'expliquer ça mieux.
C'est pas arrivé. C'est quand même une sorte de quelque chose qui est...
Non, il n'y a pas de déception. Un autre exemple du même type, d'accord? Une équipe de foot. On est maintenant à la finale mondiale. Et on est l'équipe de foot israélienne, d'accord? Et tout l'honneur d'Israël nous revient maintenant. Maintenant, je fais, hop, je passe la balle à mon ami et lui met le goal. Je suis jaloux, mais je crève de joie, je jure de bonheur, je l'attrape, je l'embrasse. Parce qu'on a réussi.
Et par rapport à
moi-même, j'ai fait mon maximum, je suis très heureux qu'on ait réussi. Maintenant, l'entraîneur me dit, je sais, l'entraîneur me dit que je peux faire plus si je m'entraînais plus. Ok, mais je suis conscient de cela, mais est-ce que je suis malheureux maintenant qu'on a réussi à mettre le... Que c'est lui qui a mis le goal et pas moi. Je suis pas malheureux. Ça me mange. Je suis déçu. Je suis heureux. Je suis en pleine communion maintenant de bonheur qu'on ait réussi à faire l'acte. Tu comprends? Ce qui nous manque, nous, c'est l'union désintéressée ensemble. Quand on comprend qu'on est les mêmes membres d'un même corps. C'est ça qu'on voit bien dans la Mamba. Il n'y a pas de jalousie. On est heureux que tout avance bien. Simplement, l'entraîneur me dit, tu peux plus. Ok, je fais de mon mieux. Pour amour de la patrie, pour amour de Dieu, pour amour du Gaulle. L'Avdil, d'accord. Il n'y a pas de déception, ce n'est pas un sentiment malheureux, un sentiment mangé, un sentiment mesquin. Il n'y a pas une chose pareille. Il y a par amour de Dieu, j'aurais voulu faire plus. Ça répond? Ben, Ezrat Hashem. C'est une notion fine. Baruch Adonai, l'homme.